Nous sommes le mercredi 13 mai et vous regardez BFM Première. On est ravis d'être avec vous dans quelques instants. Il sera 4h30. Bonjour Jenna.
Bonjour Tanguy. Bonjour à tous. Autour de la table pour vous accompagner toute la matinée. Virginie pour les sports, Julien pour toute votre météo. Et évidemment, toute l'actualité. Le Pentagone prépare déjà un scénario de reprise des frappes contre l'Iran. Il porterait le nom de marteau de fer.
Et puis l'antivirus qui ravive le souvenir du Covid. Les autorités tentent désormais de calmer les inquiétudes. Nous le verrons ensemble. Emmanuel Macron affirme que la situation est sous contrôle.
Tout de suite, votre météo avec Julien.
La météo vous est présentée par Maxus, les nouveaux utilitaires diesel pour les pros qui démarrent tôt.
Maxus. La météo avec Nesten. Puits de confettis dans nos 400 agences immobilières en France.
La météo avec Banque Populaire. À vos côtés pour prévoir votre avenir et protéger vos proches. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Un temps perturbé aujourd'hui, Julien.
Exactement, des nuages, de la pluie. C'est vrai que ça va changer par rapport à hier, qui était une journée plutôt calme avec le retour de très belles éclaircies. Regardez, c'était déjà nuageux hier après-midi dans le département de l'Ain. Ça va encore l'être aujourd'hui avec cette dépression qui circule en mer du Nord et qui nous apporte cette nouvelle perturbation qui va concerner ce matin l'extrême nord du territoire, notamment les régions allant du nord de la Bretagne jusqu'au nord Pas-de-Calais. Remarquez à l'avant beaucoup de passages nuageux, un temps plus sec. Ce sera aussi particulièrement nébuleux entre les Pyrénées, le nord-est, avec des pluies de faible intensité, un voile nuageux particulièrement dense le matin vers la Méditerranée. Progressivement, vous allez retrouver du soleil dans ce secteur au prix du vent. Et pour votre après-midi, ce sera particulièrement instable au nord de la Loire avec des averses localement orageuses. Soyez prudents. Des coups de tonnerre aussi possibles vers les Pyrénées, les Alpes du Sud. Sinon, vers les régions centrales, eh bien, on pourrait quand même observer de très belles éclaircies, toujours du soleil mais du vent en Méditerranée et en Corse. Pour vos températures, ce matin, eh bien, comptez de 3 à 15 degrés, c'est contrasté. Et pour votre après-midi, les températures qui continuent de baisser jusqu'à 13 degrés du côté de Rouen. 23 degrés à Montpellier, c'est l'exception. Sinon, on est partout ailleurs en dessous des normales de saison. Ça va continuer cette baisse des températures pour ces prochains jours avec une journée de demain particulièrement instable pour ce jeudi férié. Des orages qui vont circuler entre le nord et le nord-est. Il faudra se méfier.
C'était la météo avec Nesten. Grand soleil sur tous vos projets immobiliers.
La météo vous a été présentée par Maxus, les nouveaux utilitaires électriques pour les pros qui démarrent tôt.
Maxus.
C'était la météo avec Banque Populaire, à vos côtés pour préparer sereinement votre retraite. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Nous sommes mercredi matin et nous sommes en direct. Quatre grands titres dont l'actualité, l'option militaire toujours sur la table à Washington. Selon NBC ce matin, une nouvelle opération contre l'Iran pourrait porter le nom de marteau de fer. Les médias américains évoquent une stratégie pour contourner le vote du Congrès après 60 jours de conflit. De son côté, Pékin appelle le Pakistan à intensifier la médiation.
Notre santé, les 5 Français rapatriés du navire sont désormais hospitalisés à Paris. Ils sont pris en charge à l'hôpital Bichat sous surveillance renforcée. Une femme de plus de 65 ans est en réanimation dans un état grave. Les 4 autres passagers ne présentent aucun symptôme.
Notre vie quotidienne, les caméras piétons changent-elles déjà l'ambiance dans les transports? 5 mois après leur généralisation, plus d'un contrôleur sur deux en est désormais équipé. Chez Ouigo, les agressions et les outrages ont chuté de 50% selon une information RMC.
Et puis on parlera de l'uniforme à l'école qui continue d'être testé partout en France. Depuis la rentrée 2024, une centaine d'établissements expérimentent la tenue unique. Selon les premiers résultats publiés hier, les effets seraient plutôt positifs. Reportage à suivre.
Les sports avec Virginie. Lens, Paris Saint-Germain, ce soir en match en retard de Ligue 1.
Les deux meilleures équipes de la saison face à face sont vraiment d'enjeu. Le Paris Saint-Germain sera champion à la fin, mais les deux clubs préparent chacun une finale, celle de la Coupe de France pour Lens et la Ligue des Champions pour Paris.
Une nouvelle opération militaire américaine se prépare-t-elle? La question est posée ce matin. Les médias américains, NBC notamment, selon le Pentagone, qui envisage le nom de marteau de fer en cas de reprise des frappes contre l'Iran.
Une manière, selon les médias américains, de contourner le vote du Congrès au-delà des 60 jours de conflit. On en parle tout de suite avec Axel Monnier, correspondant BFM TV à Washington. C'est le signe aussi que l'option militaire est toujours sur la table, malgré la position compliquée de Donald Trump, qui est attendu en Chine ces prochaines heures.
Alors Donald Trump a beau déclarer qu'il n'a pas besoin de la Chine pour régler le conflit iranien, il sait qu'il se rend chez un rival des États-Unis, mais surtout chez un allié de Téhéran. Et c'est pour cela qu'il aurait préféré arriver à Pékin avec un accord dans la poche, mais ce ne sera pas le cas. Il est même plutôt dans un entre-deux un peu bizarre, qui n'est plus tout à fait la guerre, mais qui n'est plus tout à fait non plus la trêve qu'il a lui-même déclarée quasi morte. Et surtout, le problème pour lui, c'est que la Chine joue un rôle indirectement central dans ce conflit. D'abord parce qu'elle fournit du renseignement à son allié iranien, et ensuite parce que Pékin s'est déjà montré à plusieurs reprises très mécontente du blocage du détroit d'Ormuz pour ses affaires et surtout pour le pétrole qu'elle fait venir du Moyen-Orient. Mais cela ne veut pas dire que ce sera le cœur des discussions. Au contraire, il faut rappeler que l'objet initial, c'est la guerre commerciale initiée par Donald Trump et ses droits de douane. C'est donc la preuve que l'Iran ne sera finalement qu'un des sujets brûlants abordés lors de cette visite.
Merci beaucoup Axel Monnier à Washington pour BFM TV. 75e jour de conflit au Moyen-Orient, une trêve entre l'Iran et les États-Unis, mais les bombardements qui se poursuivent entre Israël et le Hezbollah libanais. Arthur Descudé, on voit ça avec vous.
Oui, et 13 personnes sont décédées ces dernières heures dans le sud du Liban. Plusieurs localités ont été touchées. Dans un premier temps, la ville de Nabatieh, où une frappe israélienne a fait 5 morts, dont 2 secouristes de la défense civile ainsi que 2 blessés. Vous voyez d'ailleurs sur ces images des secouristes qui interviennent juste après l'attaque. Les rues sont nettoyées, les corps évacués. Autre frappe dans la ville de Jebchit, ici, sur cette carte. Vous le voyez, où 4 personnes sont décédées, dont un soldat et un ressortissant syrien. On apprend que 12 personnes ont également été blessées. La ville de Binjbel, un peu plus au sud, a été aussi la cible de l'armée israélienne. 4 civils ont été tués dans une frappe, annonce le ministère de la Santé libanaise, dont une femme et un enfant. 2 personnes ont aussi été blessées dans ce bombardement. Et puis enfin, une dernière image à vous montrer. Regardez, dans la ville de Tyr, qui a également été touchée, vous apercevez cette explosion et cette épaisse fumée qui s'élève donc dans le ciel après une frappe israélienne visant la ville côtière.
Arthur Descudé pour BFM TV. Les bombardements au sud Liban qui fragilisent toute une région et son économie. L'agriculture libanaise est particulièrement touchée, notamment les récoltes d'épices. Reportage de nos envoyés spéciaux Angèle Ouattara et Joao Alencar.
C'est un paradis agricole baigné de soleil qu'Emil continue de sillonner malgré le danger.
Tous les jours, ça frappe.
Il nous conseille de rester proche des murs de ce bâtiment. Ces champs sont là, mais les drones et les raids israéliens menacent.
Ils étaient 7 à faucher d'habitude. Aujourd'hui, ils sont 2 en bas. On prend des risques, c'est sûr. Mais ça suffit, on a déjà perdu 2 récoltes. Les employés ont peur, tout le monde a peur.
Près de ces champs de Zatar, on aperçoit également au loin des troupeaux de chèvres sur la montagne. Il y a depuis le début du conflit des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles qui ont été touchés par les attaques israéliennes. Pourquoi ces frappes au milieu d'une forêt bucolique ? Ici, l'ombre du Hezbollah est tenace. L'organisation a même missionné la police locale pour nous surveiller aujourd'hui. Dans ce village autant chiite que chrétien, les habitants sont en fait pris entre 2 feux, comme Darin.
Il y a eu une frappe sur la route d'une ferme il y a 2 semaines.
C'est elle qui sublime le zatar des champs voisins.
J'aime faire ces mélanges, j'aime le zatar. Je sais pas, c'est ma passion.
Chaque jour dans son laboratoire, elle évalue les risques en appelant son patron à Beyrouth.
C'est quoi la situation alors ?
Aujourd'hui, on entend les avions et les frappes. Il y a des demandes d'évacuation pas loin.
Essayez de finir rapidement et de bouger.
Prête à rejoindre sa tante dans un village plus sûr, Darin laisse ses valises dans sa voiture depuis plusieurs semaines.
On est comme réfugiés dans notre propre maison. On implose.
Des lance-missiles du Hezbollah hantent-ils réellement la vallée ? Impossible de le confirmer, mais la région demeure périlleuse et les cultures en sursis.
4h35 sur BFM TV. Autre sujet de préoccupation ce matin, l'antivirus. Scientifiques et autorités sanitaires multiplient les prises de parole pour rassurer la population.
Oui, Emmanuel Macron assure que la situation est sous contrôle en France. Un sujet forcément sensible, marqué par le souvenir du Covid. La ministre de la Santé, elle, a tenté aussi d'apaiser les craintes hier. Écoutez.
À ce stade, les cas positifs recensés sont exclusivement des croisiéristes présents à bord du MV Ondius. Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus sur le territoire national.
Et pour compléter les propos de la ministre, les 5 Français rapatriés du navire sont désormais pris en charge à l'hôpital Bichat. C'est à Paris. Ils font l'objet d'une surveillance renforcée. Parmi eux, une femme de plus de 65 ans hospitalisée en réanimation. Elle est dans un état grave ce matin.
Elle présente aujourd'hui la forme la plus sévère de l'antivirus. Les 4 autres passagers ne présentent pas de symptômes. Sonia Carnero, Lucie Mamone et Adrien Spiteri.
En se rendant à l'hôpital Bichat, certains patients reconnaissent ne pas être totalement rassurés par la présence des 5 Français rapatriés du MV Ondus.
Au lieu d'isoler les gens peut-être sur le bateau, ça aurait été peut-être plus sérieux d'envoyer un bateau hôpital. Et bien sûr qu'on est inquiet.
Ça inquiète un peu, mais on sait qu'ils ont pris les dispositions.
Tous les passagers sont placés à l'isolement dans des chambres à pression négative comme celle-ci, où les microbes sont filtrés. La femme touchée par l'antivirus est-elle en réanimation avec la forme cardio-pulmonaire la plus sévère ? Un poumon artificiel assure son oxygénation. Avant de les approcher, les soignants doivent s'équiper de lunettes de protection, de gants, de masques et de surblouses. Un dispositif qui rassure cet employé de l'hôpital.
Je pense que c'est bien pris en charge, donc on fait avec ça. Et puis voilà, on sait que les patients ils sont dans des unités isolées, pas besoin de stresser plus que ça.
Une mission complexe, selon l'infectiologue Xavier Lescure. Il salue la mobilisation des équipes médicales.
Faire de la réanimation avec des paires de gants, avec un équipement contraignant, c'est vraiment une épreuve de force.
Comme l'hôpital Bichat, en France, d'autres établissements de santé de référence peuvent accueillir les cas contacts. Ils sont présents dans 12 villes dans l'Hexagone.
En bref, dans le reste de l'actualité, le Sénat rejette à nouveau le texte sur l'aide à mourir. Le gouvernement veut désormais laisser le dernier mot à l'Assemblée nationale, où une majorité de députés soutient déjà le texte. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, dénonce, je cite, un passage en force et réclame un référendum.
Le conducteur du SUV qui avait mortellement percuté le cycliste Paul Varry sera jugé pour meurtre dans une cour d'assises. La justice estime qu'il aurait volontairement foncé sur ce militant parisien de 27 ans, engagé pour la place du vélo en ville, l'association dans laquelle milite la victime. C'est une nouvelle étape importante dans la procédure.
Et puis Gérald Darmanin recule sur son projet de plaider coupable criminel. Après plusieurs semaines de mobilisation des avocats, le garde des Sceaux réduit fortement le périmètre de cette mesure. Le dispositif devait initialement concerner davantage d'affaires pour désengorger la justice. Finalement, il ne s'appliquerait qu'au braquage et au coup mortel.
5 mois après leur généralisation, les caméras piétons semblent faire leur preuve auprès des contrôleurs. On vous en parle ce matin parce que c'est très concernant. Vous savez, ce sont ces petites caméras fixée sur les uniformes, eh bien, elle changerait déjà l'ambiance dans les transports.
Oui, selon l'exécutif, plus d'un contrôleur sur deux en est désormais équipé en France. Et information RMC, chez Ouigo, les agressions et outrages ont chuté de 50%. Victor Joannin.
À la SNCF, la totalité des 2900 contrôleurs sont désormais équipés d'une caméra piéton.
Un petit appareil en plastique qui fait 10 cm sur 8, qu'on porte sur la poitrine. Ça ressemble un petit peu aux petits appareils photo, mais de l'époque, mais en plus petit, quoi.
Nicolas est contrôleur TGV dans l'Ouest et il la porte en permanence pour calmer les tensions, comme lors de cette verbalisation houleuse sur le quai de la gare de Laval. Alors,
la personne qui montait dans les tours, ça ne l'a pas arrêté. En revanche, la personne qui est venue le chercher sur le quai, tout de suite, quand il a vu ça, il l'a pris par la main et dit « on s'en va ». Souvent, quand je regarde la personne à qui j'établis le procès verbal, je regarde ses yeux. En fait, il ne me regarde même pas dans les yeux, il regarde régulièrement la caméra. C'est assez marrant.
À la RATP aussi, l'usage des caméras piétons a balayé les réticences des agents, observe Cyril Manac, responsable force ouvrière.
Les salariés qui, d'une part, ont le sentiment malgré tout que ça déclipse certaines situations conflictuelles, ça les désamorce, mais ça leur permet encore une fois de voir des éléments de preuve sur l'intelligence de leur intervention.
Selon ce dirigeant syndical, les outrages subis par les contrôleurs n'ont pas baissé, mais la caméra piéton a pu freiner leur progression.
Et puis on voulait vous parler d'un film très attendu aujourd'hui au cinéma, ça s'appelle L'Abandon. Il revient sur l'engrenage qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty.
Oui, longtemps tenu secret, le film s'annonce comme l'un des moments forts du Festival de Cannes où il est présenté hors compétition aujourd'hui. Claire Fleury, Baptiste Keïta, Steven Bellery, Julie Poncé.
C'est l'un des films les plus attendus du festival et il débarque aussi au cinéma. L'Abandon revient sur les 11 derniers jours de Samuel Paty.
J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes cours éveillent une vocation, ça oui, j'avoue que j'en ai rêvé.
Michael, la sœur du professeur assassiné, a accepté de collaborer au scénario, rassurée par son côté ultra documenté.
Avant d'être approchée par ce projet, j'avais été contactée pour d'autres qui n'étaient pas réellement l'histoire de Samuel. Donc c'est quelque chose qui était rédhibitoire pour moi.
Je pense que ce serait bon de faire un bloc autour de lui.
L'affaire Doutreau, l'affaire Claire Stream, Vincent Garanc, le réalisateur, est un spécialiste des films liés à des affaires judiciaires. Mais cette fois, il a décidé de tourner dans le plus grand secret l'été dernier.
On ne voulait pas que ça commence à partir sur les réseaux sociaux sans contrôle.
Alors même que l'objet n'est pas connu.
Bon, il n'y a aucune raison de paniquer.
Et justement, le résultat, c'est un long métrage clinique, sous tension et très réaliste.
Au premier visionnage, moi j'ai vu Samuel du début à la fin. C'est totalement bouleversant. Je dirais que ça m'apporte, entre guillemets, une certaine satisfaction de pouvoir l'avoir ressuscité pendant un peu plus d'une heure et 40 minutes.
Désormais, elle n'espère qu'une chose, que le film soit projeté dans les collèges et lycées pour servir d'outil pédagogique, afin que l'histoire de son frère ne tombe pas dans l'oubli.
Allez, vous regardez BFM TV, il est 4h42. Dans quelques instants, la suite de votre prématinale, l'Infosport avec Virginie. On parlera de ce match en retard de Ligue 1, Lens-Paris-Saint-Germain, c'est ce soir.
Et puis le focus région en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et si la flambée du carburant faisait les affaires des croisières à la voile, reportage à suivre.
Et puis dans l'infoculture à Cannes, certains n'attendent pas les stars, mais une invitation pour enfin entrer dans les salles. Robin de BFMTV.com est sur la croisette.
Tout de suite, c'est votre vie.
Votre rendez-vous avec IKEA pour les pros, toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros.
IKEA.
C'est votre vie ce matin, on vous reparle de l'uniforme à l'école. Peut-être que ça en rappelle des souvenirs à certains. Depuis la rentrée 2024, une centaine d'établissements testent une tenue unique partout en France. Autour de la table, à quoi ressemblerait votre uniforme idéal, Virginie?
Bah, Griffon d'or.
On adore les références.
Non, moi, je suis beaucoup plus simple. Chemise blanche, pantalon bleu marine.
Un peu comme ce matin.
Oui, voilà, un peu comme ça, je porte dans ma vie de tous les jours.
C'est vrai, plus très chic ce matin.
Mais cette sonnerie-là, moi, c'est un peu ça m'a rappelé de mauvais souvenirs.
T'as dit quelle horreur.
Bah oui, parce que quand la sonnerie sonne, c'était la fin de la récréation. Donc,
ou le début de la récréation.
Ou la fin des cours
aussi. Oui, c'est vrai.
Ah, c'est vrai que ça me stresse aussi.
Bon, allez, selon les premiers résultats publiés hier, les effets de l'uniforme seraient plutôt positifs. Dans les écoles primaires, 75% des directeurs constatent un meilleur sentiment d'appartenance depuis la mise en place de la tenue. Lucas Laubert.
À la sortie de l'école, Axel, 6 ans, exhibe fièrement son uniforme.
J'ai pas ramené le t-shirt, c'est le pull.
Et sur le torse, brodé en lettres blanches sur fond bleu.
École par entier.
Dans le premier degré, 3 directeurs d'école sur 4 rapportent une évolution positive du sentiment d'appartenance envers l'école. En témoigne l'attachement de Lola à sa tenue.
Comme ça, je peux reconnaître mon école.
À côté, Philippe, le grand-père qui s'occupe d'elle au quotidien, est lui aussi convaincu.
Il n'y a pas de jugement sur la tenue d'un enfant vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas de différenciation sociale.
D'après l'enquête, dans le second degré, la tenue unique peut aider à améliorer le climat scolaire, mais n'a pas prouvé son efficacité sur les notes des élèves. Un constat mitigé et partagé par Olivier Beaufrère, proviseur et secrétaire national du SNPDEN, le syndicat du personnel de direction.
Que le côté, je dirais, uniformisé d'une tenue fasse effectivement que ça peut apaiser. On peut peut-être l'entendre. Aujourd'hui, un climat scolaire, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec du personnel, de la présence.
Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, tempère. On attend les résultats définitifs pour voir s'il y a lieu de poursuivre le dispositif, explique-t-il.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. C'était votre rendez-vous avec IKEA pour les pros. Toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros.
IKEA.
Allez, tout de suite, c'est les sports avec Virginie.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. Votre rendez-vous avec IKEA pour les pros, toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros.
IKEA.
L'infosport de ce mercredi avec Virginie, Lens qui reçoit le Paris Saint-Germain ce soir en match en retard de Ligue 1.
Si seulement il y avait eu de l'enjeu dans ce match, si la Ligue ne l'avait pas changé de date, c'est le titre de champion de France qui se jouerait sur le terrain. Mais là, de l'enjeu, il n'y en a pas, juste du jeu. Entre les deux meilleures équipes de la saison, à la fin, oui, c'est le PSG qui sera champion. Et Lens fait un beau dauphin. Pas la peine de demander aux Lensois s'ils sont motivés quand même, malgré ce manque d'enjeu.
Si on n'est pas motivé pour jouer contre le PSG, alors qu'on arrête le foot, on n'est plus jamais motivé. Non, c'est un match important puisque même si on connaît plus ou moins déjà ce qui va se passer concernant le classement final, ça reste quand même le premier contre le deuxième. Donc c'est avant tout la passion.
Lens et le PSG contents donc d'être face à face et de montrer le meilleur du football français.
Je pense que c'est une fête pour le football français parce que les deux meilleures équipes de cette saison sont aucun doute Demain, on va jouer un match très amusant. On va chercher à montrer notre niveau et le niveau de l'ONS. Et je pense que va être un match très intéressant.
Et puis il y a un autre match en retard ce soir. Brest reçoit Strasbourg, pas d'enjeu non plus. C'est à 19h et Lens PSG à 21h.
L'ancien gardien de l'OM et de l'équipe de France, Steve Mandanda, sort un livre aujourd'hui.
Oui, ça s'appelle Les jours d'après chez Flammarion. Et Steve Mandanda y décrit les difficultés psychologiques quand on arrête sa carrière avec une grande sincérité. L'été dernier, juste après son arrêt, à 40 ans, il a fait face à une sorte de vide intérieur. Il savait plus quoi faire. Je suis qui? Je fais quoi? Je n'aime rien de ma vie, là. En tout cas, je suis perdu. C'est intéressant parce qu'un sport sportif de haut niveau, pendant toute sa carrière, tout le monde est aux petits soins pour lui. Sa vie est rythmée par les matchs, par les entraînements, et puis d'un seul coup, plus personne, plus de but non plus.
La difficulté, en fait, pour moi, ça a été ce moment de vide où tu fais strictement rien, en fait. Tu fais rien parce que, un, tu te sens pas bien. Deux, tu ne sais pas quoi faire parce que tu as été habitué à aller à l'entraînement tous les jours. Pour moi, à ce moment-là, oui, j'étais en dépression et j'étais
après,
bien.
Steve Mandanda qui s'exprimait dans l'After Foot d'RMC.
Kylian Mbappé et Jordan Bardella qui s'affrontent à distance.
Alors, ni sur un terrain de football, ni pour une élection. L'attaquant de l'équipe de France a donné une interview au magazine Vanity Fair. Il parle de la prochaine élection présidentielle et du danger que représentent, selon lui, les extrêmes. Il revendique son droit à être un citoyen comme un autre, qui donne son avis, même s'il est footballeur. Le président du Rassemblement National lui a répondu sur X. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG, le club gagne la Ligue des Champions. Bon, a priori, ils ne regarderont pas PSG-Arsenal le 30 mai ensemble, ces deux-là.
Et puis, on parle un peu de tennis. Yannick Sinner fait aussi bien que Novak Djokovic.
Le meilleur joueur de tennis du monde vient d'enchaîner sa 31e victoire de suite en Master 1000. Il a battu son compatriote italien Pellegrino 6-2-6-3 hier en 8e de finale à Rome. 31 victoires de suite, record de Novak Djokovic égalé. Et puis, Victor Wembanyama et son équipe des San Antonio Spurs se rapprochent de la finale de la conférence Ouest. C'est de la NBA, bien sûr. Ils ont battu les Minnesota Timberwolves 126-97, très largement donc ce matin. Ils mènent 3-2 dans cette série. Je vous rappelle que le premier à 4 se qualifie pour la suite.
Vous savez tout de votre journal des sports. Merci beaucoup Virginie.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. C'était votre rendez-vous avec IKEA pour les pros. Toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros. IKEA.
Ce qu'il faut savoir en ce milieu de semaine, l'option militaire toujours sur la table du côté de Washington. Selon NBC, une nouvelle opération contre l'Iran pourrait porter le nom de marteau de fer. Les médias américains évoquent une stratégie pour contourner le vote du Congrès après 60 jours de conflit.
Je ne pense pas que nous ayons besoin d'aide face à l'Iran. Ils sont battus militairement et leurs dirigeants doivent faire le bon choix, sinon nous finirons le travail.
L'inquiétude monte autour de l'antivirus. Une Française de 65 ans est hospitalisée à Paris sous assistance respiratoire totale. Les médecins parlent de la forme la plus sévère de l'antivirus. 22 cas contacts sont déjà isolés et suivis par les autorités sanitaires.
Son oxygénation se fait par une machine, une oxygénothérapie membranaire extracorporelle. En gros, elle a un poumon artificiel. Ça va se jouer dans les jours qui viennent.
Et puis les caméras piétons changent-elles déjà l'ambiance dans les transports? 5 après leur généralisation, plus d'un contrôleur sur 2 en est désormais équipé. Chez Ouigo, les agressions et les outrages ont chuté de 50% selon une information RMC.
Les salariés qui, d'une part, ont le sentiment malgré tout que ça déclipse certaines situations conflictuelles, que ça les désamorce, mais ça leur permet encore une fois de voir des éléments de preuve sur l'intelligence de leur intervention.
Votre météo, c'est frais et instable, je viens.
Exactement, j'espère que vous avez bien profité d'hier, car le temps change pour ce mercredi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin après les Côtes de la Manche, qui gagne du terrain l'après-midi. Ce sera particulièrement instable au nord de la Loire avec des averses localement orageuses, pas mal de vent, plus calme vers les régions centrales, notez aussi des coups de tonnerre vers les Pyrénées et les Alpes du Sud. Vos températures pour ce matin, comptez de 3 à 15 degrés et pour votre après-midi, jusqu'à 21 degrés en région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et si la flambée des carburants profitait finalement à certains, c'est la question de notre focus région. Ce matin, du côté de Marseille, des sociétés de croisière misent désormais sur des catamarans électriques et même à voile pour séduire une clientèle peut-être un peu plus écolo.
Et surtout moins dépendante du pétrole en cette période de conflit au Moyen-Orient, en espérant aussi que l'inquiétude autour de l'antivirus ne joue pas sur les prochaines réservations. Reportage BFM Marseille-Provence, Manon Mujica.
Ce catamaran navigue essentiellement grâce au vent et sa grande voile de 160 mètres carrés.
Il nous faut à minima, je dirais, 15 nœuds de vent pour pouvoir naviguer uniquement à la voile.
Et pour assurer son fonctionnement, des panneaux solaires.
Ces panneaux solaires nous permettent de n'utiliser le groupe électrogène que... En dernier recours pour les usages qui sont très énergivores, comme la climatisation ou la désalinisation de l'eau de mer.
Peu de carburant utilisé et donc pas de risque de surcharge sur le billet. 1800 euros la semaine par personne pour une croisière le long de la côte. Au départ de Marseille et jusqu'à Saint-Tropez, la formule fait le plein cet été.
Il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur de la hausse kérosène, qui ont peur d'aller très loin à cause de la guerre et qui se sont réfugiées sur la destination de France, raison pour laquelle on a doublé notre capacité sur Marseille.
Une demande croissante et une flotte qui s'est élargie et comprend désormais 18 navires à travers les mers.
Direction maintenant les Alpes-Maritimes où des habitants dénoncent une situation devenue invivable à Nice. Ils disent vivre dans un climat d'insécurité depuis plusieurs années, en cause selon eux les nuisances autour d'un foyer de l'enfance installé dans leur quartier depuis 2008.
Les riverains parlent de menaces, de caillassages, même de départs de feu. Tous ont accepté de témoigner anonymement face à notre caméra. Reportage BFM Nice Côte d'Azur.
C'est un ras-le-bol pour ces riverains, pour qui les nuits sont devenues pour la plupart impossibles. En cause, le comportement des jeunes du foyer de l'enfance, la Palombière.
Moi j'ai peur, que dans mon sommeil, qu'on soit pris par les flammes, que nos maisons brûlent, là il y aurait des morts, ce serait dramatique. Même quand il y a des bruits de pétards, des fusées qui sifflent en plein après-midi, ça n'inquiète personne.
Une clôture carcérale a donc été érigée depuis début janvier. Selon plusieurs habitants, certains jeunes montraient régulièrement sur le toit du foyer avant de provoquer les riverains jusque tard dans la soirée. Des tensions qui peuvent rapidement dégénérer, comme le montrent ces images partagées par les riverains.
Ils veulent pas ouvrir. Personne ne faisait rien, donc moi je suis sortie, je leur ai demandé d'arrêter, et il y en a un des enfants qui m'a dit « je te viole ». Donc il avait une capuche, il faisait nuit, j'ai pas pu voir malheureusement bien sûr son visage, mais à partir du moment où on est chez soi et qu'on entend ce type de propos, je peux vous dire que l'angoisse et l'insécurité ne cessent de monter.
Ce foyer accueille des mineurs en difficulté, mais pour plusieurs familles du quartier, le problème viendrait surtout d'un manque d'encadrement de la structure d'accueil. Joint par téléphone, le directeur général du foyer, Camille Morini, assure que l'élément le plus perturbateur a depuis été changé de structure, ramenant ainsi le calme. Il évoque également la résilience des dizaines d'éducateurs présents au sein du foyer. De leur côté, les habitants comptent porter plainte contre l'auteur de la menace verbale.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. Votre rendez-vous avec IKEA pour les pros, toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros.
IKEA.
Bon, cette fois, c'est parti pour le Festival de Cannes. Depuis hier soir, la Croisette vit au rythme des montées des marches et des projections.
Mais pour entrer dans les salles, il faut le précieux sésame, une invitation. Alors, chaque jour, des passionnés tentent leur chance devant les cinémas. Robin Bernaud de BFMTV.com a rencontré ces chasseurs d'invitations.
Il y a des gens qui ont des tickets en plus et qui les donnent. Et moi, j'en cherche.
Ce sont ce que l'on appelle ici à Cannes des chasseurs d'invitations, reconnaissables à leur pancarte entre les mains. Ils rivalisent d'idées pour accéder aux projections tant convoitées.
Je suis en train, avec mon petit papier, d'essayer d'avoir des places. C'est la troisième année que je fais ça. Une amie m'a dit que ça marchait. J'ai essayé et sur le coup, ça a marché.
Mais alors, d'où viennent ces invitations restantes?
Il y a des gens qui ont trop de billets, donc s'ils utilisent pas, ils sont pénalisés. Donc, ils ont vraiment l'intérêt de les donner à des personnes qui savent qui vont voir un film après.
Alors de ce que j'ai compris, pour se démarquer, il y a vraiment deux qualités à avoir. Il faut savoir être original et surtout très patient.
Je pense que je vais rester ici pendant une heure et si ça marche pas, je rentre à la maison et je vais voir ça à la télé.
Et la montée des marches, je pense que ça doit être un kiff à faire. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, maintenant on est là, on va essayer. Si ça passe pas, j'aurais essayé et je pourrais pas m'en vouloir.
Et après une longue attente, la persévérance d'Alexia finit par payer.
Il y a une personne qui est venue qui nous a dit qu'elle n'a pas de ticket pour la cérémonie d'ouverture, mais qu'elle a deux tickets pour le film d'ouverture ce soir. C'est quand même un truc, tu te dis que ça marche, ça donne espoir, et tu te dis que tu n'es pas venu pour rien, que tu vas avoir le film d'ouverture le soir même, donc c'est cool quand même.
Durant tout le festival, certains viendront ici chaque jour avec l'espoir de pouvoir décrocher le précieux sésame.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. C'était votre rendez-vous avec IKEA pour les pros, toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros.
IKEA.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Il est bientôt 5h et à la une ce matin, Donald Trump menace, je cite, de finir le travail en Iran. On va vous expliquer ce que cache cette opération au nom de film d'action, le marteau de fer.
Oui, et puis cette inquiétude sanitaire, une Française toujours dans un état grave, on parle de l'antavirus, 22 cas contacts désormais suivis par les autorités sanitaires.
Tout de suite, c'est votre météo avec Julien Rifflet.
La météo vous est présentée par Maxus, les nouveaux utilitaires diesel pour les pros qui démarrent tôt.
Maxus. La météo avec Nesten. Pluie de confettis dans nos 400 agences immobilières en France.
La météo avec Banque Populaire. À vos côtés pour prévoir votre avenir et protéger vos proches. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Le temps est perturbé et frais aujourd'hui, Julien.
Exactement, on a une dépression qui circule en mer du Nord et qui donc nous apporte une nouvelle perturbation pour ce mercredi. Le temps va bien changer par rapport à hier. On retrouve déjà ces précipitations ce matin entre le Nord Bretagne, le Nord Pas-de-Calais. Remarquez beaucoup de passages nuageux à l'avant, mais un temps sec. La nébulosité sera également particulièrement importante entre les Pyrénées, le Grand Est, avec des pluies de faible intensité. On aura un ciel bien laiteux près de la Méditerranée avec du vent. Seulement le matin, car l'après-midi, vous allez retrouver du soleil dans ce secteur et remarquer l'instabilité qui sera toujours de la partie au nord de la Loire, des averses localement orageuses, du vent. Soyez prudents, c'est plus calme en allant vers le sud, même si on aura des averses orageuses vers les Pyrénées, les Alpes du Sud, un temps plutôt sec avec de belles éclaircies vers les régions centrales. Pour vos températures ce matin, comptez de 3 à 15 degrés, c'est toujours contrasté. Et pour votre après-midi, eh bien, elles sont partout en dessous des normales, sauf près de la Méditerranée, 23 degrés du côté de Montpellier, mais seulement 13 degrés dans le secteur de Rouen. Pour le jeudi de l'Ascension, ça va rester frais et instable pour tout le monde, sauf près de la Méditerranée. Beaucoup de nuages, des averses localement orageuses entre le nord et le nord-est, parfois accompagnées de grésil, il faudra se montrer prudent. La journée de vendredi, eh bien, sera instable dans la moitié sud, ça s'améliore dans le nord. Amélioration pour tout le monde samedi, mais vous remarquez que pour dimanche, eh bien, une nouvelle perturbation va pointer le bout de son nez par le nord-ouest.
C'était la météo avec Nesten. Grand soleil sur tous vos projets immobiliers.
La météo vous a été présentée par Maxus, les nouveaux utilitaires électriques pour les pros qui démarrent tôt.
Maxus.
C'était la météo avec Banque Populaire, à vos côtés pour préparer sereinement votre retraite. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Bientôt 5h sur BFM TV. Bon réveil à la une ce matin. Donald Trump attendu aujourd'hui à Pékin pour rencontrer son homologue chinois. Officiellement, il sera question d'économie, de Taïwan, mais en coulisses, c'est surtout la guerre en Iran qui devrait dominer les échanges. Les États-Unis cherchent encore une sortie diplomatique tout en maintenant la pression militaire sur Téhéran.
Avec ce conflit, on parle de votre vie quotidienne. Les Français qui roulent moins, la consommation de carburant a baissé de 30% depuis le début du mois de mai. Conséquence directe, près de 300 millions d'euros de recettes en moins pour l'État. À plus de 2 euros le litre dans certaines stations, beaucoup limitent désormais les déplacements. Reportage BFM TV à suivre.
L'inquiétude monte autour de l'antivirus. Une Française de 65 ans est hospitalisée à Paris sous assistance respiratoire totale. Les médecins parlent, je cite, de la forme la plus sévère de l'antivirus. 22 cas contacts sont déjà isolés et suivis par les autorités sanitaires.
Mauvaise nouvelle pour votre week-end de l'Ascension. Si vous aviez prévu le barbecue ou la plage, il va falloir revoir vos plans. La pluie va concerner une large partie du pays. Les températures vont aussi chuter sous les 10 degrés localement vendredi matin.
Et puis l'info sport avec Virginie. Lens reçoit le Paris Saint-Germain ce soir en match en retard de Ligue 1.
Peu d'enjeux, mais beaucoup de jeux ce soir. Lens PSG en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les deux meilleures équipes de l'année face à face.
Tout va donc se jouer à Pékin cette semaine, un face-à-face inédit entre Donald Trump et Xi Jinping. La dernière fois que le président américain était venu en Chine, c'était fin 2017.
Officiellement, ils vont parler économie et Taïwan, mais officieusement, le sujet numéro un, c'est l'Iran. La Chine vient d'appeler le Pakistan à, je cite, intensifier sa médiation. Kevin Elias avec Tito en boiteux.
La fin de la guerre en Iran va-t-elle se jouer à Pékin? Dans les rues de Téhéran, en tout cas, certains habitants veulent y croire.
Je pense que la Chine, d'une manière ou d'une autre, exercera son influence. Et elle obtiendra certainement des États-Unis toutes les garanties ou concessions qu'elle estime devoir recevoir à cet égard.
car la question du conflit au Moyen-Orient sera au cœur des discussions entre Xi Jinping et Donald Trump. La Chine, qui achète plus de 80% du pétrole iranien, a un intérêt, tout comme les États-Unis, à un apaisement du conflit et une réouverture du détroit d'Ormuz.
La Chine, elle a un double enjeu sur l'Iran. Elle a effectivement l'approvisionnement en pétrole iranien qui l'affaiblit quelque part. Mais elle a aussi énormément d'échanges commerciaux avec les États du Golfe.
De leur côté, les États-Unis attendent que la Chine fasse pression sur l'Iran pour trouver un accord de paix. Mais Donald Trump n'arrive pas en position de force à Pékin.
Donald Trump se rend à Pékin avec cette guerre en Iran qui devait être une guerre éclair de quelques jours. Et puis, dans la relation économique, la Chine a répondu coup pour coup. En réalité, Donald Trump n'a peu de cartes en main, lui non plus.
Devenu plus rare en raison d'un durcissement des relations entre les deux puissances, cette visite d'État américaine en Chine est une première depuis 2017.
Vous avez peut-être entendu dernièrement ce nom, Epic Fury, c'était l'opération américaine en cours. Et bien ce matin, le Pentagone fait circuler un nouveau nom, beaucoup plus menaçant, Marteau de fer. Donald Trump n'a pas encore tranché, mais avant de s'envoler pour la Chine, il a envoyé ce message très clair aux Iraniens, écoutez.
J'annoncerai la fin de la guerre. C'est moi qui prends ce genre de décision. Je pourrais partir de l'Iran dès maintenant et ça leur prendrait 25 ans pour reconstruire leur pays. Mais je ne souhaite pas faire cela. Je veux que l'accord soit complet et total.
Je ne pense pas que nous ayons besoin d'aide face à l'Iran. Ils sont battus militairement et leurs dirigeants doivent faire le bon choix. Sinon, nous finirons le travail.
Voilà une manière de contourner le Congrès qui doit donner son autorisation pour poursuivre le conflit au-delà des 60 jours. Côté iranien, la réponse est aussi claire. Pas question de changer une virgule à leur proposition de paix. On va retrouver dans quelques instants Siavosh Ghazi, correspondant RFI et France 24 à Téhéran. Le négociateur iranien Mohammad Ghalibaf parle même d'une proposition américaine, je cite, « bonne à mettre à la poubelle ».
Siavosh Ghazi, qu'on retrouvera dans quelques instants. Au Liban, les frappes israéliennes ne s'arrêtent pas. Hier, encore 13 morts dans le sud du pays. Parmi les victimes, un soldat, deux secouristes, mais aussi une femme et un enfant. Israël qui affirme viser les positions du Hezbollah. Mais malgré le cessez-le-feu annoncé il y a plusieurs semaines, les échanges de tirs et les bombardements continuent quasiment chaque jour dans la région.
Depuis le cessez-le-feu, l'armée israélienne, Tsahal, affirme avoir frappé plus de 1100 positions du Hezbollah et neutralisé 350 combattants. Mais côté libanais, les autorités parlent de 380 morts, dont 22 enfants depuis le début de la trêve. Reportage de nos envoyés spéciaux au nord d'Israël où explosions et alarmes rythment toujours leur quotidien. Naoufel El-Kawafi et Laura Champion.
Le bruit des détonations a remplacé le silence du cessez-le-feu. Dans ce village au nord d'Israël, la frontière libanaise est à seulement quelques mètres. Ici, chaque semaine, ces femmes de la région se réunissent malgré les tensions.
Les gens ne comprennent pas qu'on est en guerre permanente.
Et même pendant la trêve, le conflit est au cœur de toutes les conversations.
Tous les jours, on entend des explosions, des missiles, des hélicoptères. Ici, on le ressent tout le temps. C'est toujours la guerre, c'est pas un cessez-le-feu. Par exemple, un drone est tombé à 10 mètres de ma voiture et a pris feu. Parfois, on peut même rater des alarmes et on ne sait pas où s'abriter.
Un cessez-le-feu qui n'emporte que le nom. Car sur le terrain, Tsahal poursuit ses activités au Liban, notamment des opérations de surveillance. Pour ce pilote de drone, l'armée israélienne ne fait que répondre aux violations et attaques du Hezbollah.
Pendant cette trêve, on continue quand même à intervenir, à traiter les menaces qu'on identifie grâce aux drones. Ça peut être des personnes qui mettent en danger nos forces terrestres et nos civils. Mais oui, malheureusement, ça ne ressemble pas vraiment à un cessez-le-feu. J'aimerais que ce soit le cas. On essaie d'agir un peu différemment, mais on doit neutraliser chaque menace.
Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'armée israélienne affirme avoir ciblé plus de 1100 positions du Hezbollah, éliminé plus de 350 combattants. De leur côté, les autorités libanaises font état de 380 morts, dont 22 enfants, causés par des frappes israéliennes depuis le début de cette trêve.
En France maintenant, avec cette conséquence très concrète du conflit, les carburants sont toujours hors de prix. Alors les Français réduisent leurs déplacements. Le gouvernement parle d'une baisse de 30% de la consommation de carburant sur les 10 premiers jours du mois de mai.
Et forcément, ça se ressent aussi dans les caisses de l'État. Selon Sébastien Lecornu, les recettes fiscales ont déjà reculé d'environ 300 millions d'euros. Beaucoup d'automobilistes essaient désormais d'éviter les trajets inutiles. Philippine Boulet.
Oui, comme ces deux automobilistes qui laissent de plus en plus souvent leur voiture au garage.
On fait beaucoup moins de trajets, oui. On évite tout. Tout ce qui est inutile.
On évite de sortir. Je travaille pas le dimanche. On pourrait essayer d'aller à droite à gauche, mais on ne le fait pas.
Enola a 19 ans et elle refuse de faire une croix sur ses loisirs.
Je sors moins. Si on sort, on groupe. On essaye de pas prendre trop de voitures.
Vous êtes mise au covoiturage.
C'est ça.
Cet été, elle le sait déjà, elle ne pourra pas partir dans le sud comme d'habitude.
Plutôt privilégié du coup, on va dire tout ce qui va être Vendée, Bretagne, ce qui est quand même beaucoup moins loin. Nous, on va être plutôt sur du 4 heures au lieu d'être sur du 6 ou 8 heures de route.
Pour Anaïs, c'est encore pire.
On part pas.
Elle va devoir passer l'été chez elle, avec ses enfants.
Ouais, c'est la première fois. D'habitude, on va sur la Vendée. Là, c'est trop cher. On a un jardin, donc on va profiter.
Et Anaïs n'est pas la seule. Selon un sondage Elab pour BFM TV, un tiers des Français ont abandonné l'idée de partir en vacances ou en week-end à cause de la flambée des prix du carburant.
L'antivirus qui reste au cœur des inquiétudes ce matin, on vous en parle. Emmanuel Macron tente de rassurer depuis le Kenya. Le président de la République affirme que la situation liée au antivirus est sous contrôle. Il assure que des protocoles très stricts ont été mis en place avec les autorités sanitaires.
Mais sur le terrain, l'alerte est maximale, notamment à l'hôpital Bichat à Paris. Une femme de 65 ans avec des comorbidités est actuellement sous assistance respiratoire. Les médecins parlent de la forme la plus sévère du virus. Marion Gauthier.
Une femme de plus de 65 ans présentant des comorbidités. L'antivirus s'attaque au vaisseau sanguin. Ici, ce sont ses poumons qui sont touchés. Elle est prise en charge à l'hôpital Bichat, où travaille Xavier Lescure. Son pronostic vital est très clairement engagé, estime l'infectiologue.
Oui, elle a l'état le plus préoccupant, c'est-à-dire qu'elle est intubée et ventilée en respiration artificielle. Son oxygénation se fait par une machine, une oxygénothérapie membranaire extracorporelle. En gros, elle a un poumon artificiel. Ça va se jouer dans les jours qui viennent.
Remplacer le poumon agressé par le virus, le temps qu'il se défende et se rétablisse en quelque sorte, c'est la seule solution du personnel soignant, explique-t-il en conférence de presse.
Est-ce qu'on a un traitement spécifique ? Non, pas de traitement antiviral approuvé efficace. On fait uniquement des soins de support. On supplée aux insuffisances, à l'inflammation et aux dégâts engendrés par le virus.
Pas de vaccin non plus, d'où la nécessité de la recherche sur le traitement antiviral et sur la prévention de l'antivirus.
Dans le même temps, 22 cas contacts sont actuellement isolés et suivis en France. Ce sont des proches, des voyageurs du navire MV Ondus ou des personnes qui ont croisé des patients contaminés ces derniers jours. Et les autorités veulent éviter toute chaîne de transmission.
Et beaucoup de questions se posent ce matin. Combien de temps dure l'incubation? Quels symptômes doivent alerter? Et surtout, faut-il craindre une épidémie? On va essayer d'être le plus simple possible avec ces réponses. Inès Zegloul.
Tous présents à bord d'un des deux avions où se trouvait une victime du virus décédée depuis. 22 Français, cas contact de tout âge, dont 3 mineurs, 3 adolescents d'une même fratrie. Tous vont bien, rassure la ministre de la Santé, pas de symptômes cliniques. Identifiés, testés, ils sont désormais placés, précise Stéphanie Rist, en quarantaine renforcée dans l'un des établissements de santé sollicités à Paris, Rennes, à Marseille ou encore à Bordeaux.
Ils sont hospitalisés au minimum 15 jours. Le temps de l'incubation.
2 semaines sous étroite surveillance du corps médical, urgentiste, réanimateur, virologue, infectiologue, des équipes formées au risque d'infection hautement contagieuse, des protocoles méticuleux suivis à la lettre dans des services spécialement équipés.
Des chambres particulières, puisqu'il y a des systèmes d'air qui évitent la propagation d'un virus pour bien prendre en charge des patients à risque infectieux.
Principe de précaution. Mesure maximale, répète la ministre, comme unique façon d'enrayer une potentielle propagation.
Dans l'actualité, ce mercredi matin, journée importante au tribunal pour Nicolas Sarkozy. C'est le moment clé du procès en appel du financement libyen. Le parquet général doit dévoiler aujourd'hui les peines réclamées contre Nicolas Sarkozy et d'autres prévenus. En première instance, 7 ans de prison avaient été requis contre l'ancien président. Les réquisitions devraient tomber dans l'après-midi.
Bon, nous sommes le mercredi 13 mai. Si vous préparez vos valises pour ce pont de l'Ascension, pensez au parapluie. La pluie va concerner une très large partie du pays dès demain.
Les températures vont aussi baisser nettement. Certaines villes pourraient repasser sous les 10 degrés au petit matin. Une météo qui oblige certains Français à adapter leur plan, Cassandre Brault.
Sur son téléphone, Corinne regarde la météo.
Ah non, c'est pas top, hein. Ça va être couvert. Donc finalement, la maison, ce sera très bien.
Avec la pluie et le vent, les plans de la petite famille pour le week-end tombent à l'eau.
On avait initialement prévu de partir quelques jours en Auvergne. Comme on est un peu gourmand, il y avait des fromages et un peu de charcuterie et puis de la marche. Mais du coup, bah, ce sera pour une prochaine fois.
Christiane et Daniel, eux, ne vont pas se laisser abattre. Ils ont un gros week-end d'anniversaire de prévu.
Toute la famille est réunie, voilà. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.
Et est-ce que vous avez regardé un peu la météo, messieurs, dames ?
Pas du tout. S'il fait pas beau, ce serait un petit peu ennuyeux pour les activités extérieures qui ont été prévues, mais on aura le soleil dans les cœurs.
Ça risque de ne pas suffire pour Clara, qui organise un événement musical en plein air. Elle a même ressorti son col roulé.
C'est désespérant, mais bon, on n'y peut rien pour le coup. La météo, c'est vraiment pas notre faute. Et bon, on espère quand même qu'on va passer un bon moment. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir tout le week-end, mais c'est vrai qu'il va pas faire super beau.
Pas super beau et pas super chaud non plus. Les températures vont difficilement dépasser les 15 degrés.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. Votre rendez-vous avec IKEA pour les pros, toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros. IKEA.
C'est votre revue ce matin, on vous reparle de l'uniforme à l'école. Peut-être que ça en rappelle des souvenirs à certains. Depuis la rentrée 2024, une centaine d'établissements testent une tenue unique partout en France. Autour de la table, à quoi ressemblerait votre uniforme idéal ? Virginie.
Bah, Gryffondor,
parfait, ouais. On adore les références.
Non, moi, je suis beaucoup plus simple. Chemise blanche, pantalon bleu marine.
Un peu comme ce matin.
Oui, voilà, un peu comme ça, je porte dans ma vie de tous les jours.
Oui, c'est vrai. Plus très chic ce matin.
Mais cette sonnerie, là, moi, c'est un peu ça m'a rappelé des mauvais souvenirs.
T'as dit quelle horreur.
Bah, oui, parce que quand la sonnerie sonne, c'était la fin de la récréation.
Donc, ou le début de la récréation.
Ou la fin des cours
aussi. C'est vrai.
Ah, c'est vrai que ça me stresse aussi.
Bon, allez, selon les premiers résultats publiés hier, les effets de l'uniforme seraient plutôt positifs. Dans les écoles primaires, 75% des directeurs constatent un meilleur sentiment d'appartenance depuis la mise en place de la tenue. Lucas Laubert.
À la sortie de l'école, Axel, 6 ans, exhibe fièrement son uniforme.
J'ai pas ramené le t-shirt, c'est le pull.
Et sur le torse, brodé en lettres blanches sur fond bleu.
École parmentier.
Dans le premier degré, 3 directeurs d'école sur 4 rapportent une évolution positive du sentiment d'appartenance envers l'école. En témoigne l'attachement de Lola à sa tenue.
Comme ça, je peux reconnaître mon école.
À côté, Philippe, le grand-père qui s'occupe d'elle au quotidien, est lui aussi convaincu.
Il n'y a pas de jugement sur la tenue d'un enfant vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas de différenciation sociale.
Après l'enquête, dans le second degré, la tenue unique peut aider à améliorer le climat scolaire, mais n'a pas prouvé son efficacité sur les notes des élèves. Un constat mitigé et partagé par Olivier Beaufrère, proviseur et secrétaire national du SNPDEN, le syndicat du personnel de direction.
Que le côté, je dirais, uniformisé d'une tenue fasse effectivement que ça peut apaiser. On peut peut-être l'entendre. Aujourd'hui, un climat scolaire, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec du personnel, de la présence.
Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, tempère. On attend les résultats définitifs pour voir s'il y a lieu de poursuivre le dispositif, explique-t-il.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. C'était votre rendez-vous avec IKEA pour les pros. Toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros. IKEA.
5h13, restez avec nous pour la suite de votre pré-matinale. Les sports avec Virginie. Lens reçoit le Paris Saint-Germain ce soir en match en retard de Ligue 1.
Et puis dans l'infoculture, vous allez découvrir les chasseurs d'invitation à Cannes. Ils étaient encore plusieurs dizaines hier soir à tenter d'entrer sur la croisette sans carton officiel. Reportage à suivre dans quelques instants.
D'ici là, direction Mulhouse ce matin. Image en direct de notre webcam dans le Grand Est. 5 degrés actuellement, 16 attendus cet après-midi. Ciel très nuageux et averse au programme. Météo complète à suivre avec Julien Riflet. À tout de suite. Ça groove.
BFM TV 5h20, 3 grands titres dans l'actualité ce mercredi matin. L'option militaire toujours sur la table à Washington. Selon NBC, une nouvelle opération contre l'Iran porterait le nom de marteau de fer. Les médias américains évoquent une stratégie pour contourner le vote du Congrès après 60 jours de conflit.
L'inquiétude monte autour de l'antivirus. Une Française de 65 ans est hospitalisée à Paris sous assistance respiratoire. Les médecins parlent de la forme la plus sévère du virus. 22 cas contacts sont déjà isolés et suivis par les autorités sanitaires.
Et puis les caméras piétons changent-elles déjà l'ambiance dans les transports 5 mois après leur généralisation? Plus d'un contrôleur sur deux en est désormais équipé. Chez Ouigo, les agressions et les outrages ont chuté de 50% selon une information RMC ce matin.
votre météo, Julien, c'est frais et mitigé.
Exactement, c'est franchement pas terrible avec le retour de la pluie ce matin entre le Nord-Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Remarquez beaucoup de passages nuageux aussi entre les Pyrénées, le Grand Est, des pluies de faible intensité. Et l'après-midi, eh bien, ça va rester très instable au nord de la Loire. Des averses localement orageuses, remarquez un temps plus calme vers les régions centrales. Des orages aussi vers les Pyrénées et les Alpes du Sud. Vos températures pour ce matin, comptez de 3 à 15 degrés. Et pour votre après-midi, on ira jusqu'à 21 degrés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Merci Julien. Tout de suite, les sports. Virginie.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. Votre rendez-vous avec IKEA pour les pros. Toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros. IKEA.
L'info sport de ce mercredi avec Virginie. Lens qui reçoit le Paris Saint-Germain ce soir en match en retard de Ligue 1.
Si seulement il y avait eu de l'enjeu dans ce match, si la Ligue ne l'avait pas changé de date, c'est le titre de champion de France qui se jouerait sur le terrain. Mais là, de l'enjeu, il n'y en a pas, juste du jeu entre les deux meilleures équipes de la saison. À la fin, oui, c'est le PSG qui sera champion et Lens fait un beau dauphin. Pas la peine de demander aux Lensois s'ils sont motivés quand même, malgré ce manque d'enjeu.
Si on n'est pas motivé pour jouer contre le PSG, alors qu'on arrête le foot, on n'est plus jamais motivé. Non, c'est... C'est un match important puisque même si on connaît plus ou moins déjà ce qui va se passer concernant le classement final, ça reste quand même le premier contre le deuxième. Donc c'est avant tout la passion.
Lens et le PSG contents donc d'être face à face et de montrer le meilleur du football français.
Je pense que c'est une fête pour le football français parce que les deux meilleures équipes de cette saison sont aucun doute. Demain, on va jouer un match... très amusant. On va chercher à montrer notre niveau et le niveau de Lens. Et je pense que va être un match très intéressant.
Et puis il y a un autre match en retard ce soir. Brest reçoit Strasbourg, pas d'enjeu non plus. C'est à 19h et Lens PSG à 21h.
L'ancien gardien de l'OM et de l'équipe de France, Steve Mandanda, sort un livre aujourd'hui.
Oui, ça s'appelle Les jours d'après chez Flammarion. Et Steve Mandanda y décrit les difficultés psychologiques quand on arrête sa carrière avec une grande sincérité. L'été dernier, juste après son arrêt, à 40 ans, il a fait face à une sorte de vide intérieur. Il savait plus quoi faire. Je suis qui? Je fais quoi? Je n'aime rien de ma vie. Là, en tout cas, je suis perdu. C'est intéressant parce qu'un sport de haut niveau pendant toute sa carrière. Tout le monde est aux petits soins pour lui. Sa vie est rythmée par les matchs, par les entraînements. Et puis d'un seul coup, plus personne, plus de but non plus.
La difficulté, en fait, pour moi, ça a été ce moment de vide où tu fais strictement rien, en fait. Tu fais rien parce que, un, tu te sens pas bien. Deux, tu ne sais pas quoi faire parce que tu as été habitué à aller à l'entraînement tous les jours. Pour moi, à ce moment-là, oui, j'étais en dépression et j'étais
après,
bien.
Steve Mandanda qui s'exprimait dans l'after foot d'RMC.
Kylian Mbappé et Jordan Bardella qui s'affrontent à distance.
Alors, ni sur un terrain de football, ni pour une élection. L'attaquant de l'équipe de France a donné une interview au magazine Vanity Fair. Il parle de la prochaine élection présidentielle et du danger que représentent, selon lui, les extrêmes. Il revendique son droit à être un citoyen comme un autre, qui donne son avis, même s'il est footballeur. Le président du Rassemblement National lui a répondu sur X. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG, le club gagne la Ligue des Champions. Bon, a priori, ils ne regarderont pas PSG-Arsenal le 30 mai ensemble, ces deux-là.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. C'était votre rendez-vous avec IKEA pour les pros. Toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros. IKEA.
C'est l'infoculture sur BFM Première.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. Votre rendez-vous avec IKEA pour les pros. Toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros. IKEA.
Bon, cette fois, c'est parti pour le Festival de Cannes. Depuis hier soir, la Croisette vit au rythme des montées des marches et des projections.
Mais pour entrer dans les salles, il faut le précieux sésame, une invitation. Alors, chaque jour, des passionnés tentent leur chance devant les cinémas. Robin Bernot de BFMTV.com a rencontré ces chasseurs d'invitations.
Il y a des gens qui ont des tickets en plus et qui les donnent. Et moi, j'en cherche.
Ce sont ce que l'on appelle ici à Cannes des chasseurs d'invitations, reconnaissables à leur pancarte entre les mains. Ils rivalisent d'idées pour accéder aux projections tant convoitées.
Je suis en train, avec mon petit papier, d'essayer d'avoir des places. C'est la troisième année que je fais ça. Une amie m'a dit que ça marchait. J'ai essayé et sur le coup, ça a marché.
Mais alors, d'où viennent ces invitations restantes?
Il y a des gens qui ont trop de billets, donc que s'ils utilisent pas, ils sont pénalisés. Donc, ils ont vraiment l'intérêt de les donner à des personnes qui savent qui vont voir un film après.
Alors, de ce que j'ai compris, pour se démarquer, il y a vraiment deux qualités à avoir. Il faut savoir être original et surtout très patient.
Je pense que je vais rester ici pendant une heure et si ça marche pas, je rentre à la maison et je vais voir ça à la télé.
Et la montée des marches, je pense que ça doit être un kiff à faire. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, maintenant on est là, on va essayer. Si ça passe pas, bah, j'aurais essayé et je pourrais pas m'en vouloir.
Et après une longue attente, la persévérance d'Alexia finit par payer.
Il y a une personne qui est venue et qui nous a dit qu'elle a pas de ticket pour la cérémonie d'ouverture, mais qu'elle a deux tickets pour le film d'ouverture ce soir. C'est quand même un truc, tu te dis que ça marche, ça donne espoir et tu te dis que t'es pas venu pour rien, que tu vas avoir le film d'ouverture le soir même. Donc c'est cool quand même.
Durant tout le festival, certains viendront ici chaque jour avec l'espoir de pouvoir décrocher le précieux sésame.
Une bonne journée commence avec de bonnes infos. C'était votre rendez-vous avec IKEA pour les pros. Toute l'offre et les services d'IKEA dédiés aux pros. IKEA.
C'est l'heure de la météo.
La météo vous est présentée par Maxus, les nouveaux utilitaires diesel pour les pros qui démarrent tôt.
Maxus. La météo avec Nesten. Pluie de confettis dans nos 400 agences immobilières en France.
La météo avec Banque Populaire. À vos côtés pour prévoir votre avenir et protéger vos proches. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et c'était plutôt agréable hier avec un temps sec et de belles éclaircies comme ici dans le département du Val-d'Oise. C'est vrai que pour ce mercredi, ça change sous l'influence d'une dépression en mer du Nord qui nous apporte une perturbation et un temps particulièrement frais. Tout cela va se prolonger ces prochains jours pour ce long week-end de l'Ascension. Ce matin, on retrouve donc de la pluie entre le nord de la Bretagne, le nord Pas-de-Calais. Remarquez ces passages nuageux aussi conséquents des Pyrénées au Grand Est avec des pluies de faible intensité. Le ciel est particulièrement laiteux, voilé près de la Méditerranée en cours de matinée, mais dans l'après-midi, vous allez retrouver du soleil dans ce secteur avec toujours du vent. Et pour l'après-midi, eh bien remarquez cette instabilité qui se développe dans le nord du pays, au nord de la Loire, avec des averses localement orageuses, du vent de secteur ouest, parfois à 80 km/h sur la côte d'Opale. Remarquez un temps plus agréable dans les régions centrales, quelques averses localement orageuses vers les Pyrénées, les Alpes du Sud. Pour vos températures ce matin, eh bien, elles restent contrastées, comptez de 3 à 15 degrés, 3 degrés dans le secteur de Strasbourg, 15 pour vous déjà à Nice. Et l'après-midi, les températures restent en dessous des normales. L'exception, ce sera à Montpellier avec 23 degrés, un temps qui va encore être très instable pour demain.
C'était la météo avec Nesten. Grand soleil sur tous vos projets immobiliers. La météo vous a été présentée par Maxus, les nouveaux utilitaires électriques pour les pros qui démarrent tôt.
Maxus.
C'était la météo avec Banque Populaire, à vos côtés pour préparer sereinement votre retraite. Banque Populaire, la réussite est en vous.
BFM TV, il est 5h30, merci beaucoup d'être avec nous. À la une de l'actualité ce mercredi matin, l'option militaire toujours sur la table du côté de Washington. Selon NBC ce matin, une nouvelle opération contre l'Iran pourrait porter le nom de marteau de fer. Les médias qui évoquent une stratégie pour contourner le vote du Congrès après 60 jours du conflit. De son côté, Pékin appelle le Pakistan à intensifier la médiation.
Notre santé, les 5 Français rapatriés du navire sont désormais hospitalisés à Paris. Ils sont pris en charge à l'hôpital Bichat sous surveillance renforcée. Une femme de plus de 65 ans est en réanimation dans un état grave. Les 4 autres passagers ne présentent aucun symptôme.
Notre vie quotidienne, les caméras piétons changent-elles déjà l'ambiance dans les transports? 5 mois après leur généralisation, plus d'un contrôle sur 2 en est désormais équipé. Chez Ouigo, les agressions et les outrages ont chuté de moitié selon une information RMC.
Et puis on parle également de l'uniforme à l'école qui continue d'être testé partout en France. Depuis la rentrée 2024, une centaine d'établissements expérimentent la tenue unique et selon les premiers résultats publiés hier, les effets serait plutôt positif. Reportage à suivre.
Les sports, Virginie, Lens, PSG, ce soir en match retard en Ligue 1.
Peu d'enjeux, mais beaucoup de jeux ce soir. Lens PSG en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les deux meilleures équipes de l'année face à face.
Une nouvelle opération militaire américaine se prépare-t-elle? La question est posée ce matin puisque selon la chaîne NBC, le Pentagone envisage le nom de marteau de fer en cas de reprise des frappes contre l'Iran.
Une manière selon les médias américains de contourner le vote du Congrès au-delà des 60 jours de conflit. On en parle tout de suite avec Axel Monnier, correspondant BFM TV à Washington. C'est le signe aussi que l'option militaire reste toujours sur la table malgré la position compliquée de Donald Trump qui est attendue en Chine ces prochaines heures.
Alors Donald Trump a beau déclarer qu'il n'a pas besoin de la Chine pour régler le conflit iranien. Il sait qu'il se rend chez un rival des États-Unis, mais surtout chez un allié de Téhéran. Et c'est pour cela qu'il aurait préféré arriver à Pékin avec un accord dans la poche, mais ce ne sera pas le cas. Il est même plutôt dans un entre-deux un peu bizarre, qui n'est plus tout à fait la guerre, mais qui n'est plus tout à fait non plus la trêve qu'il a lui-même déclarée quasi morte. Et surtout, le problème pour lui, c'est que la Chine joue un rôle indirectement central dans ce conflit. D'abord parce qu'elle fournit du renseignement à son allié iranien, et ensuite parce que Pékin s'est déjà montré à plusieurs reprises très mécontente du blocage du détroit d'Ormuz pour ses affaires et surtout pour le pétrole qu'elle fait venir du Moyen-Orient. Mais cela ne veut pas dire que ce sera le cœur des discussions. Au contraire, il faut rappeler que l'objet initial, c'est la guerre commerciale initiée par Donald Trump et ses droits de douane. C'est donc la preuve que l'Iran ne sera finalement qu'un des sujets brûlants abordés lors de cette visite.
Merci Axel Monnier à Washington pour BFM TV. 75e jour de conflit au Moyen-Orient, une trêve entre l'Iran et les États-Unis, mais entre Israël et le Hezbollah libanais, Arthur Descudé, des bombardements se poursuivent.
Oui, et 13 personnes sont décédées ces dernières heures dans le sud du Liban. Plusieurs localités ont été touchées. Dans un premier temps, la ville de Nabatieh, où une frappe israélienne a fait 5 morts, dont 2 secouristes de la défense civile ainsi que 2 blessés. Vous voyez d'ailleurs sur ces images des secouristes qui interviennent juste après l'attaque. Les rues sont nettoyées, les corps évacués. Autre frappe dans la ville de Jebchit. Vous le voyez sur cette carte juste ici, où 4 personnes sont décédées, dont un soldat et un ressortissant syrien. On apprend que 12 personnes ont également été blessées. La ville de Binjbeil, un peu plus dans le sud du Liban, a aussi été la cible de l'armée israélienne. 4 civils ont été tués dans une frappe, annonce le ministère de la Santé libanaise, dont une femme et un enfant. 2 personnes ont aussi été blessées dans ce bombardement. Et puis enfin, une dernière image à vous montrer. Regardez dans la ville de Tyr, qui a également été touchée. Vous apercevez cette explosion et cette épaisse fumée qui s'élève dans le ciel après une frappe israélienne visant donc cette ville côtière du sud du Liban.
Arthur Descudé pour tout savoir et mieux comprendre. Merci Arthur. Les bombardements au sud Liban qui fragilisent toute la région et toute l'économie. L'agriculture libanaise, tiens par exemple, est particulièrement touchée, notamment les récoltes d'épices. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Angil Ouattah, Joao Alencar.
C'est un paradis agricole baigné de soleil qu'Emile continue de sillonner malgré le danger.
Tous les jours, ça frappe.
Il nous conseille de rester proche des murs de ce bâtiment. Ces champs sont là, mais les drones et les raids israéliens menacent.
Ils étaient 7 à faucher d'habitude. Aujourd'hui, ils sont 2 en bas. On prend des risques, c'est sûr. Mais ça suffit, on a déjà perdu 2 récoltes. Les employés ont peur, tout le monde a peur.
Près de ces champs de Zatar, on aperçoit également au loin des troupeaux de chèvres sur la montagne. Il y a depuis le début du conflit des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles qui ont été touchés par les attaques israéliennes. Pourquoi ces frappes au milieu d'une forêt bucolique? Ici, l'ombre du Hezbollah est tenace. L'organisation a même missionné la police locale pour nous surveiller aujourd'hui. Dans ce village autant chiite que chrétien, les habitants sont en fait pris entre 2 feux, comme Darin.
Il y a eu une frappe sur la route d'une ferme il y a 2 semaines.
C'est elle qui sublime le zatar des champs voisins.
J'aime faire ces mélanges, j'aime le zatar. Je sais pas, c'est ma passion.
Chaque jour dans son laboratoire, elle évalue les risques en appelant son patron à Beyrouth.
C'est quoi la situation alors?
Aujourd'hui, on entend les avions et les frappes. Il y a des demandes d'évacuation pas loin.
Essayez de finir rapidement et de bouger.
Prête à rejoindre sa tante dans un village plus sûr, Darin laisse ses valises dans sa voiture depuis plusieurs semaines.
On est comme réfugiés dans notre propre maison. On implose.
Des lance-missiles du Hezbollah hantent-ils réellement la vallée? Impossible de le confirmer, mais la région demeure périlleuse et les cultures en sursis.
5h35 sur BFM TV, bon réveil si vous nous rejoignez. Autre sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes ce matin, c'est l'antivirus. Scientifiques et autorités sanitaires multiplient les prises de parole pour rassurer la population.
Emmanuel Macron assure que la situation est sous contrôle en France, un sujet forcément sensible marqué par le souvenir du Covid. La ministre de la Santé a tenté d'apaiser les craintes hier, écoutez.
À ce stade, les cas positifs recensés sont exclusivement des croisiéristes présents à bord du MV Ondius. Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus sur le territoire national.
Les cinq Français rapatriés du navire sont désormais pris en charge à l'hôpital Bichat. C'est à Paris. Ils font l'objet d'une surveillance renforcée. Parmi eux, une femme de plus de 65 ans hospitalisée en réanimation dans un état grave.
Oui, elle présente aujourd'hui la forme la plus sévère de l'antivirus. Les quatre autres passagers ne présentent pas de symptômes. Sonia Carnero, Lucie Mamone et Adrien Spiteri.
En se rendant à l'hôpital Bichat, certains patients reconnaissent ne pas être totalement rassurés par la présence des cinq Français rapatriés du MV Ondus.
Au lieu d'isoler les gens peut-être sur le bateau, ça aurait été peut-être plus sérieux d'envoyer un bateau hôpital. Et bien sûr qu'on est inquiet.
Ça inquiète un peu, mais on sait qu'ils ont pris les dispositions.
Tous les passagers sont placés à l'isolement dans des chambres à pression négative comme celle-ci, où les microbes sont filtrés. La femme touchée par l'antivirus est-elle en réanimation avec la forme cardio-pulmonaire la plus sévère ? Un poumon artificiel assure son oxygénation. Avant de les approcher, les soignants doivent s'équiper de lunettes de protection, de gants, de masques et de surblouses. Un dispositif qui rassure cet employé de l'hôpital.
Je pense que c'est bien pris en charge, donc on fait avec ça. Et puis voilà, on sait que les patients, ils sont dans des unités isolées. Pas besoin de stresser plus que ça.
Une mission complexe, selon l'infectiologue Xavier Lescure. Il salue la mobilisation des équipes médicales.
Faire de la réanimation avec des paires de gants, avec un équipement contraignant, c'est vraiment une épreuve de force.
Comme l'hôpital Bichat, en France, d'autres établissements de santé de référence peuvent accueillir les cas contacts. Ils sont présents dans 12 villes dans l'Hexagone.
En bref, dans le reste de l'actualité, le Sénat rejette à nouveau le texte sur l'aide à mourir. Le gouvernement veut désormais laisser le dernier mot à l'Assemblée nationale, où une majorité de députés soutient déjà le texte. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, lui dénonce un passage en force et réclame un référendum.
Le conducteur du SUV qui avait mortellement percuté le cycliste Paul Varry sera jugé pour meurtre devant une cour d'assises. La justice estime qu'il aurait volontairement foncé sur ce militant parisien de 27 ans engagé pour la place du vélo dans la ville. L'association dans laquelle la victime salue une nouvelle étape importante dans la procédure.
Et puis Gérald Darmanin recule sur son projet de plaider coupable criminel. Après plusieurs semaines de mobilisation des avocats, le garde des Sceaux réduit fortement le périmètre de cette mesure. Le dispositif devait initialement concerner davantage d'affaires pour désengorger la justice. Finalement, il ne s'appliquerait qu'au braquage et aux coups mortels.
Cinq mois après leur généralisation, les caméras piétons semblent faire leurs preuves auprès des contrôleurs. Vous savez, ce sont ces petites caméras que vous voyez à l'antenne fixées sur les uniformes, eh bien, elle changerait déjà l'ambiance dans les transports.
Oui, selon l'exécutif, plus d'un contrôleur sur deux en est désormais équipé en France. Et information RMC, chez Ouigo, par exemple, les agressions et outrages ont chuté de 50%. Victor Joannin.
À la SNCF, la totalité des 2900 contrôleurs sont désormais équipés d'une caméra piéton.
Un petit appareil en plastique qui fait 10 cm sur 8, qu'on porte sur la poitrine. Ça ressemble un petit peu aux petits appareils photo, mais de l'époque, mais en plus petit, quoi.
Nicolas est contrôleur TGV dans l'Ouest et il la porte en permanence pour calmer les tensions, comme lors de cette verbalisation houleuse sur le quai de la gare de Laval.
Alors, la personne qui montait dans les tours, ça ne l'a pas arrêté. En revanche, la personne qui est venue le chercher sur le quai, tout de suite, quand il a vu ça, il l'a pris par la main et dit « on s'en va ». Souvent, quand je regarde la personne à qui j'établis le procès verbal, je regarde ses yeux. En fait, il ne m'arrête même pas dans les yeux, il regarde régulièrement la caméra. C'est assez marrant.
À la RATP aussi, l'usage des caméras piétons a balayé les réticences des agents, observe Cyril Manac, responsable force ouvrière.
Les salariés qui, d'une part, ont le sentiment malgré tout que ça déclipse certaines situations conflictuelles, que ça les désamorce, mais ça leur permet encore une fois de voir des éléments de preuve sur l'intelligence de leur intervention.
Selon ce dirigeant syndical, les outrages subis par les contrôleurs n'ont pas baissé, mais la caméra piéton a pu freiner leur progression.
6h20, restez avec nous pour la suite de votre pré-matinale. On parlera de l'uniforme à l'école qui continue d'être testé partout en France depuis la rentrée 2024. Une centaine d'établissements expérimentent la tenue unique et les premiers résultats sont positifs.
D'ici là, notre webcam en direct de Mulhouse, c'est dans le Haut-Rhin. Temps nuageux ce matin et même pluvieux cet après-midi. Attention, comptez 5 petits degrés en première partie de journée, jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Prévision complète dans un instant avec Julien Rifflet. À tout de suite, vous regardez BFM Première.